Jean Giraudoux, Guiguite et Poulet. Lui, il criait les journaux le soir. Les camelots l'appelaient Jacques et les sergents de ville le Poulet. Jacques devait être son véritable nom, car il répondait guère aux sergents de ville. Son âge, oh, il ne le savait point. Il n'avait pas eu de parents. Il avait moins de 20 ans et 1 an de plus chaque année. Peut-être aurait-il pu apprendre le jour de sa naissance à la préfecture de police. Mais il aurait fallu déranger le préfet. Or Jacques savait qu'il avait fort à faire. D'ailleurs, il détestait les visites. Elle vendait des fleurs au coin de la rue Montmartre. D'un commun accord, on l'avait baptisée Bistinguette. Les marchandes des quatre saisons disaient sans façon Guiguite. Et les garçons de café, plus cérémonieux, l'appelaient Miss. Ce Miss britannique lui plaisait. Elle avait en fait des yeux bleus Norvège, des joues roses saxes, des cheveux blonds vénitiens. Tout cet ensemble qui, en un mot, que l'on nomme chez les femmes l'air anglais. Outre qu'elle était blonde et qu'il était brun, qu'elle était petite et qu'il était grand, un motif puissant devait les attirer l'un vers l'autre. Ils étaient tous les deux coquets. Elle avait un corsage en piècement. Il avait une de ces cravates que l'on noue soi-même, ce qui fait qu'il s'arrêtait volontiers aux glaces des devantures. Elle, pour admirer sa tenue, et lui, pour contrôler la sienne. C'est dans un de ces miroirs sur le boulevard qu'ils s'aperçurent pour la première fois. Leurs reflets leur plurent, et quand ils se regardèrent en face, leurs personnes ne se déplurent pas. Ce jour-là, les familles fêtaient la Sainte-Marie, et deux nations s'étaient déclaré la guerre. De sorte que toutes les fleurs et tous les journaux s'étaient vendus. Ils avaient tout le temps d'engager la conversation. Et Jacques trouva un prétexte aussi vieux que le monde et que les compagnies d'autobus. « Est-ce que Madeleine Bastille va passer, mademoiselle ?» « Mais oui, monsieur, » répondit-elle en souriant. « Ah ben le voici !» Il arrivait en effet, se dégageant au triple galop de sa triple attelage, vers l'opéra et la Madeleine. Jacques éprouva soudain une vive répugnance pour ces quartiers de l'Ouest. Oh, j'irai plutôt à la Bastille, décida-t-il. Il gagna aussi quelques minutes qui lui permirent d'assurer l'avenir. Les jeunes gens décidèrent de se revoir le lendemain et se séparèrent en feignant une hâte telle qu'il semblait n'avoir pas un instant à perdre pour arriver à temps au rendez-vous. Au bout d'une semaine, ils étaient les plus grands amis du monde et déjà de fort sérieux amoureux. Elle lui offrit un soir une cravate. Il riposta par une boîte de chocolat. Or, il aurait préféré lui offrir des fleurs, mais Les acheter à elle, c'était peut-être humiliant. Et puis, il ne fallait pas faire favoriser la concurrence en les achetant à une autre. Les bonbons, d'ailleurs, ne lui coûtaient guère. Il faut vous dire que Jacques n'était pas seulement vendeur de journaux. Oh, il n'y a pas de sous-métier, a-t-on dit. Jacques exerçait le plus intelligent. Il était voleur. À sa sortie d'école, il avait, à vrai dire, cherché une place. Il avait même, dans chacun de ses futurs patrons, feint de ramasser sur le tapis une épingle qu'il tenait péniblement entre le pouce et l'index, pour qu'on remarquât ses qualités d'économie. Mais les temps ont changé depuis le jour où ce geste valut la fortune à son solliciteur. Jacques aurait pu ramasser une planche du parquet sans qu'on y présentât attention. Aussi, un beau matin, mais cette fois-ci, sans ostentation, il ramassa un louis qui traînait. Le lendemain, il ne se baissa pas. Le magasin étant vide et le comptoir à sa hauteur. Sa profession était toute trouvée. Dure profession quand on l'exerce sans conseil et sans amis. Mais Jacques se félicitait maintenant d'avoir fait bande à part. Personne ne pourrait jamais le trahir auprès de Guiguite. Il allait encore travailler quelques mois et sa dot serait suffisante pour acheter un petit commerce dans un bon quartier et s'y reposer tout le reste de sa vie avec sa grande petite femme. Et un jour, il décida de faire sa demande. Il avait entraîné son ami jusqu'à la Marne, loué un canot et ramait pour s'enhardir avec la rage d'un équipier d'Oxford poursuivi par tout le team de Cambridge. Mistinguett, au gouvernail, dirigeait le bateau vers les places ombragées. Malgré les regards menaçants des pêcheurs qui, leurs lignes fichées en terre, semblaient surveiller d'inutiles et timides plantations de bambou. C'était un de ces jours où on n'éprouve pas d'autre besoin que de dire « Oh, comme le ciel est bleu !» et l'air pur, et l'eau comme elle coule, comme l'herbe est verte, disait Jacques. On en mangerait. Mais il lâcha soudain les avirons, si subitement que Guiguite, qui crut à un naufrage, elle vit en une seconde, des écueils, des requins, elle poussa un cri. « Louise, dit-il, tu veux m'épouser ?» Il n'osait se mettre à genoux, car le canot tanguait fortement. Elle souriait, mais d'un air qui la rendait plus sérieuse. Les pêcheurs, tranquillisés du geste auguste du semeur, lancèrent au poisson le grain, le son et la mie de pain. Poulet, répondit-elle enfin, on verra. Oh, je dis seulement que je ne dis pas non. Si tu veux prendre un petit commerce dans un bon quartier, j'ai une tante qui me doterait peut-être. On serait tranquille, Pousset. Tu achèterais enfin le journal du matin, toi qui ne peux lire que ceux du soir. Jacques, ému, tendit son cadeau de fiançailles, une petite montre. Elle devait être en or, mais les montres, on ne peut pas les faire tomber pour voir si le métal ne résonne pas faux. Comme tu es gentil, remercia Miss. Je désirais tant savoir l'heure. Le matin, pour me lever, autrefois, la marchande de moutons m'éveillait, mais elle passe maintenant à 8 heures ou à 9 heures, et même à midi. Ce que les serins doivent avoir mauvais estomac dans mon quartier. Dis donc, mais pourquoi prends-tu ma main? Oh, je prends ta main, Miss. Ah oui, bon, c'est pour m'occuper. Comme il sentait une bague imprévue au doigt de son ami, il examina à la dérobée une turquoise d'arbre et des perles. Oh, ne te frappe pas, expliqua Miss. C'est la bague de ma tante. Jacques se demandait s'il n'aurait pas préféré, après tout, que la fleuriste fût tout à fait pauvre. Cette bague, que venait-elle faire là où il ne la recherchait guère? Tu n'as pas de père et de mère, au moins? Il fut rassuré que quand elle lui répondit: mais je n'ai que toi, Poussin. Le lendemain était un dimanche. Jacques traînait un chapeau de paille et une averse avait naturellement se mis à tomber. Et comme il était sorti sans parapluie, il en pria à une devanture. Quelqu'un s'aperçut du larcin. Jacques essayait bien de transiger, d'expliquer au vendeur que s'il portait plainte, l'objet volé serait confisqué jusqu'au jugement, peut-être jusqu'à l'hiver. Mais les Français ne comprennent pas le commerce. Il faut du sentiment. Ils préfèrent se venger et immobiliser 6,90 francs. Alors on conduisit Jacques au poste. Comme il entrait dans la salle réservée aux collègues, dignement, malgré le canotier qui ruisselait, une jeune fille se précipita vers lui. C'était Mistinguette. Jacques, dit-elle, pardonne-moi. J'espérais tant que tu n'en saurais rien. Cette maudite bague, je t'assure que c'est bien la première et la dernière fois. Il avait compris. Miss était voleuse, elle aussi, comme lui. À apprendre cela, il éprouva le besoin de fermer les yeux, de battre quelqu'un, de crier très fort. Les gens riches qui ont tout appris appellent cela de la déception. Oh, ils préfèrent en finir tout de suite. Mais je ne suis pas ici en visite. C'est aussi bien chez moi que chez toi. Il pleuvait. Alors j'ai voulu emprunter, sans façon, un parapluie. Et le boutiquier a dû avoir peur, il se mouille, et il m'a fait courir après. Elle le regarda décontenancé. Elle éprouvait le besoin de faire des reproches à Jacques, mais de ne pas le voir, de ne pas penser. Les gens pauvres qui ne savent pas appellent cela l'envie de pleurer. Tous deux ne savaient quoi se dire. Ils étaient honteux de s'être trompés mutuellement, furieux d'avoir été découverts. L'idée que quelques mois de prison allaient les éloigner l'un de l'autre ne leur était pas désagréable. Miss s'assit à l'écart et dans la lumière crue de la chambre passée au plâtre, Jacques lui parut trop brun, trop sans gêne. Elle n'avait pas remarqué non plus que ses chaussettes retombaient sur ses bottines. Et lui sifflotait. Il avait les mains dans les poches. Ça le changeait. Mais sous prétexte de lire les affiches et de connaître les règlements du vol, il se rapprochait insensiblement d'une jeune voleuse qui venait d'entrer, oh, qui n'avait pas l'air anglais, et qui, sans fausse modestie, plaisantait avec l'agent de service.